La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
Des sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Donald Trump, prix Nobel de la paix. Ce n'est pas une blague, c'est une ambition, une obsession même. Depuis des années, le président américain se voit en faiseur de paix, en grand diplomate incompris, en apôtre de la désescalade à coups de missiles. Dernier épisode en date, l'opération surprise Marteau de minuit, lancée dans la nuit de samedi à dimanche, qui a réduit en poussière 3 sites nucléaires iraniens. Une surprise certes, mais officiellement une étape vers la paix. Alors Trump y croit au Nobel, encore et toujours. Interviewé sur un tarmac dans le New Jersey le samedi dernier, il répondait ça.
Well, they should give me the Nobel Prize. I should have gotten it 4 or 5 times. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals.
J'aurais dû l'avoir 4 ou 5 fois, lance-t-il avec son narcissisme habituel, avant de faire son petit caca boudin en se plaignant que le Nobel n'était décerné qu'aux gens de gauche. Il pensait probablement à Barack Obama qui, rappelons-le, a reçu le prix Nobel de la paix en 2009, quelques mois après son élection. Et évidemment, les Trumpistes n'en ratent pas une pour applaudir. Le secrétaire d'État Marco Rubio s'empresse par exemple de souligner que, je cite, « jamais un président n'a autant cherché à faire la paix dans le monde ». Mais alors pourquoi le sujet du prix Nobel revient sur la table maintenant ? Selon Fox News, c'est le parlementaire républicain Buddy Carter qui a soumis la candidature de Trump au comité Nobel pour avoir empêché, je cite, « le plus grand État au monde soutenant le terrorisme d'obtenir l'arme la plus meurtrière de la planète ». Et même le Pakistan a salué son rôle dans le cessez-le-feu, entre New Delhi et Islamabad au mois de mai. Alors, est-ce qu'on peut faire la paix à coups de missiles ? C'est en tout cas la voie choisie clairement par les États-Unis, les fameux « gendarmes du monde » depuis les années 80, où l'usage de la force militaire est présenté comme un moyen de garantir la stabilité international. Comme le résume le politiste Lorik Enton dans un article du Huffington Post, dans l'appareil de pensée des républicains, il y a depuis Ronald Reagan l'idée de la paix par la force, et les attaques en Iran sont une illustration assez pure de cette idée. En attendant, 2 jours après les frappes américaines, le cessez-le-feu entre Israël et Téhéran semble tenir. En revanche, pour la nouvelle version Trump, ça risque d'être un peu juste pour cette année. La date limite pour proposer des candidatures était le 31 janvier. Reste à voir d'ici l'an prochain dans quel conflit Trump continuera à déployer sa version un peu musclée de la paix, et si cela lui ouvrira un jour les portes de la médaille tant convoitée. Au menu de cette matinale, un double zoom avec d'abord Jean-Félix Ram, directeur de la Barge du Cruise de Paris pour parler du Summer Cruise Festival, et puis Justine Goyot de l'association Les Passeurs de Curiosité. Delila reviendra sur les actus du jour dans le Flash Info, Anaïs nous fera une chronique sur une boisson très promise en cette saison, la citronnade, et Arthur nous fera une autre chronique humoristique sur les hommes qui ont du mal à parler de leurs émotions. Et on aura Gauthier à la réal aujourd'hui, mais pour commencer cette émission, on va parler santé mentale des jeunes dans l'interview avec Karine Chevreul, médecin et professeur de santé publique à l'université de Paris-Cité. Et donc je laisse la main à Delila pour l'interview et nous sommes en ligne avec Karine Chevreul qui a coordonné l'étude Mentalo sur le bien-être mental des 11-24 ans. Est-ce que vous nous entendez, Karine ?
Je vous entends très bien, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir, bonsoir Karine Chevreul. Donc, vous êtes responsable effectivement de l'étude Mentalo, également médecin et professeur de santé publique à l'université de Paris-Cité. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Mentalo rapidement ?
Oui, bien sûr, Mentalo, c'est une étude qui a été construite pour les jeunes et avec des jeunes pour avoir plus d'informations sur leur niveau de bien-être mental, donc de santé mentale, et comprendre avec eux ce qui les rendait plus forts ou plus vulnérables et comment en fait ces facteurs qui les rendent plus forts ou plus vulnérables vont avoir une influence sur l'évolution de leur santé mentale au cours du temps. Et pourquoi on a fait ça ? On a fait ça pour pouvoir justement mieux comprendre leur sujet de préoccupation et pouvoir développer des outils de prévention et des outils pour s'armer qui soient le plus adaptés à la situation. Alors, elle se fait en ligne et aujourd'hui, on a un peu plus de 16 000 participants.
Quel genre de questions ça comprend cette enquête à peu près ? Est-ce que c'est un questionnaire qui est évolutif, qui est conçu pour être répondu peut-être plusieurs fois par les intéressés ?
Oui, exactement. Donc, en fait, c'est un questionnaire qui, on va dire, qui est évolutif parce qu'on peut répondre en plusieurs fois. Donc, il y a un corps. Le questionnaire le plus important, central, c'est sur le bien-être mental. Mais également, il va y avoir d'autres questionnaires auxquels on peut répondre à différents temps, sur lesquels on va donner des informations sur ses relations avec sa famille, sur ses relations amicales, sur sa relation aux études, donc soit à l'école, soit à l'université, et sur comment ça se passe. Et d'autres informations également sur les activités sociales habituelles, l'utilisation des écrans et autres, pour qu'on puisse mieux connaître en fait le contexte qui fait que des fois on va mieux ou moins bien. Ces questionnaires, on peut y répondre au temps qui nous arrange, mais le questionnaire sur la santé mentale, c'est le seul qui va être posé plusieurs fois aux participants pour être sûr de comprendre l'évolution dans le temps.
Ok. Est-ce que vous avez, par exemple, un ordre d'idée de questions type un petit peu qui constitue le cœur du questionnaire ?
Bien sûr. Alors, les questions sur le bien-être mental vont être, par exemple, une question, c'est comment te sens-tu mentalement? Et on va demander aux personnes de donner une note, en fait, à leur perception de leur santé mentale. Mais également, en fait, pour pouvoir faire une étude qui soit encore plus scientifique, on a utilisé un questionnaire, qui est un questionnaire validé, qui s'appelle le PHQ-4, et qui, à travers 4 questions, va permettre, en fait, de donner un score de santé mentale, mais uniquement sur l'anxiété et la dépression, par exemple. Donc ça, c'est des questionnaires sur la santé mentale. Et puis ensuite, quand on va rencontrer les gens, on va leur demander aussi, quand ils vont revenir, on va leur demander comment te sens-tu par rapport à la dernière fois. Voilà. Donc pour bien comprendre, non seulement qu'on peut utiliser des échelles validées, mais que surtout, ce qui compte, ça peut être aussi la perception des individus. Et après, si vous voulez des exemples de questions qui sont relatifs, par exemple, à la vie étudiante, par exemple, on va demander si on sent une pression à la réussite, si on est satisfait de la façon dont est décidée l'orientation.
D'accord, ça faisait un peu partie des questions que j'allais effectivement vous poser juste après. C'était sur la plage de l'enquête, du coup, qui s'étend de 2024 à 2026. Je me demandais pourquoi un timing aussi large. Est-ce que c'est pour justement traquer un petit peu, au fil du temps, les réponses de certaines personnes?
C'est exactement ça. D'abord, c'est pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer, parce qu'il faut déjà être au courant que cette enquête existe, et donc pour pouvoir la porter à la connaissance du plus grand nombre, les gens peuvent venir participer, les jeunes peuvent venir participer au moment qui leur convient le mieux, dès qu'ils ont connaissance de l'enquête. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on demande aux participants, tant que faire se peut, de rester avec nous et de répondre 7 fois à la question sur comment ils vont sur un an. Parce que ce qui est très important et ce qui existe peu aujourd'hui, ce sont des enquêtes ou des études qui permettent de suivre l'évolution pour savoir en fait comment ça évolue au cours du temps et ce qui peut influencer justement le bien-être mental ou la santé mentale des individus pour mieux comprendre les mécanismes associés. Donc ça, c'est une vraie originalité de l'étude, et c'est ce suivi sur un an qui explique qu'en fait l'étude peut sembler durer très longtemps.
D'accord, donc c'est du suivi au long cours, mais est-ce que du coup vous mesurez les résultats plutôt au jour le jour, ou est-ce que ça va se faire plutôt à la fin dans une espèce de gros bilan récap?
Non, pas du tout. On commence à faire des analyses qu'on appelle intermédiaires pour savoir comment ça va, comment ça peut évoluer. On peut regarder aussi une fois au printemps, une fois à l'automne, sur comment vont les gens. Ça, on ne le fait pas encore. On attendait d'avoir suffisamment de résultats. On n'a pas regardé encore les évolutions. On a déjà regardé en descriptif ce qu'on pouvait trouver, comment allaient les gens et quelles étaient en fait aujourd'hui en statique en fait les associations entre certains facteurs et leur niveau de bien-être mental.
J'ai vu que l'enquête avait un aspect un petit peu communautaire, qu'il y avait possibilité pour certaines personnes de devenir ambassadeurs, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce système-là? J'ai vu aussi qu'on pouvait partager le questionnaire à des amis, par exemple.
Bien sûr. Alors en fait, le principe de l'étude est vraiment fondé sur la recherche participative et la science participative. Alors, les deux sont très proches. Ce que ça veut dire, c'est que effectivement, quand on a développé les questionnaires, on s'est mis à table avec des jeunes entre 11 et 20 et quelques années
en leur demandant d'écrire les premières questions. Alors, ça tombe pas du ciel, hein, donc on est des scientifiques, on sait quels sont les facteurs connus qui sont associés au bien-être mental, on sait également, en fait, comment on mesure le bien-être mental. Mais ce qui comptait le plus pour nous, c'était que ces jeunes, en fait, puissent formuler les questions de la façon qu'ils comprenaient, et puis en plus, qu'ils nous proposent des questions à ajouter. Donc, au fur et à mesure, on a travaillé ensemble, on a ajouté des questions pour décrire au mieux leur situation. Et ensuite, on a bien compris qu'en fait, il fallait aussi demander aux principaux intéressés qui avaient compris que l'intérêt de participer à l'étude, bah, c'était d'aider toute leur génération, quoi, parce que mieux on comprendra, mieux on pourra développer des systèmes de prévention et de restauration, qu'en fait, c'était à eux qu'on pouvait demander, bah, justement d'inciter leurs amis à participer ou leurs connaissances à participer. Et c'est pour ça que quand on est dans l'enquête, on vous propose, bah, d'inviter des gens à participer. Parce que ça a un double effet, en fait, cette enquête. Non seulement ça aide les chercheurs à mieux comprendre le niveau de bien-être mental ou de santé mentale, ce qui fait qu'on va mieux ou mal, mais aussi ça aide l'utilisateur à réaliser, en fait, ce qui peut être lié, par exemple, à son bien-être mental, à en parler pour la première fois. Donc le fait qu'on sollicite des jeunes pour être nos ambassadeurs, c'est aussi lié au fait que, à partir du moment où on a commencé à passer par des établissements pour faire la promotion d'études, qu'on a eu des directeurs d'établissements qui ont été intéressés, ou des professeurs, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des jeunes qui nous appelaient en disant « Comment est-ce que moi je peux faire la promotion d'études dans mon établissement ?» Et c'est pour ça que si vous allez sur le site internet, vous voyez qu'en fait, il y a une rubrique, c'est « Comment je deviens ambassadeur ?» Et on a mis à la disposition des jeunes soit des textes tout faits, soit des affiches pour pouvoir inciter les autres à participer. C'est de la recherche qui est faite aussi pour les autres.
Merci beaucoup Karine Cheval, on va faire une petite pause dans cette interview. On va faire une petite pause musicale, on s'écoute tout de suite Peace of Mind de Grant Perez. Pardon. Chouette petit son à écouter au bord de la piscine cet été, c'était Peace of Mind de Grant Perez.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et on est de retour dans la matinale, et avant la pause, nous étions en pleine interview avec Karine Chevreul. Je rappelle que vous êtes médecin et professeur de santé publique à l'université Paris-Cité, et on parle de l'étude Mentalo sur la santé mentale des jeunes. Je te relaisse la main, Delila.
Alors effectivement, on parlait juste avant de l'aspect un petit peu communautaire de l'étude, donc vous nous expliquez qu'il y avait un peu un double effet, que ça permettait du coup d'améliorer un peu la visibilité de l'étude, qui permettait d'avoir plus de résultats, et également de couvrir un petit peu les angles morts que vous auriez pu peut-être avoir sur les questions qui sont relatives aux jeunes forcément et qui leur importent. Du coup, toujours sur cet aspect un petit peu communautaire, j'ai vu sur le site de l'étude qu'il existait un système de points. Donc, à quoi ils servent ces points? Est-ce que du coup c'est dans le cadre de... dans un cadre plus large, je dirais, comment le questionnaire se fait? Est-ce que c'est via une appli? Est-ce que c'est un Google Form?
Oui, alors non, c'est une appli qui a été développée spécifiquement pour Mentalo. Et dans cette appli, en fait, pour intéresser le plus les gens et pour qu'ils voient leur progression dans l'appli, il y a une sorte de quête. La quête, c'est d'aider en fait les chercheurs à faire toute la lumière sur la connaissance, sur le bien-être mental des jeunes. Et donc à chaque fois, puisque je vous disais qu'en fait on essayait d'interroger les jeunes plusieurs fois sur leur niveau de bien-être mental, on essaye de les interroger 7 fois. En un an, hein. Et donc, pour qu'ils voient la progression, à chaque fois qu'ils vont remplir un questionnaire et renseigner, ils vont monter sur une montagne pour que nous arrivions à progresser et monter sur une montagne pour que nous arrivions au sommet de la connaissance. Mais en même temps, quand ils vont justement nous renseigner sur des éléments contextuels qui ont un effet sur eux et sur leur santé mentale, à ce moment-là, vont changer les éléments du décor de cette montagne. Donc, ils vont apparaître le jour, le soleil, les oiseaux, autres, pour bien montrer la progression. Et parallèlement, on va gagner des points quand on va répondre au questionnaire. L'idée, c'est effectivement qu'on ait une espèce de reconnaissance, c'est la ludification qui est mise dans l'application, qu'on ait une reconnaissance et qu'on puisse gagner des récompenses pour avoir participé ou pour avoir atteint un certain niveau de points.
Ok, et est-ce que vous avez un peu un ordre d'idée de en quoi consistent les récompenses? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du symbolique ou
Alors il y a de tout, hein, forcément. Le symbolique, c'est d'avoir atteint un certain palier. Sinon, en fait, on va pouvoir gagner des livres en ligne, des films également en ligne, des places de cinéma, de temps en temps des places pour aller voir des matchs de sport quand on arrive à vraiment un niveau plus haut. Alors, gagner, je ne sais pas, en tout cas, on va pouvoir avoir et accéder à certaines de ces récompenses. Donc, on reste beaucoup, on n'est pas dans le bon d'achat, hein. On reste beaucoup dans tout ce qui est activité culturelle, sportive, accès à des applications pour apprendre la musique ou autre.
Vous nous parliez tout à l'heure un petit peu des résultats de l'étude et de ce que ça allait un peu pouvoir amener. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un point un petit peu plus précis sur à quoi sont destinés les résultats? Est-ce qu'ils vont être présentés quelque part? Forcément, il y aura un rapport d'étude sans le moindre doute, mais est-ce que ça doit mener à des discussions sur donner des moyens supplémentaires pour améliorer la santé mentale des jeunes?
Alors, je pense que aujourd'hui, effectivement, on n'a pas attendu hein, les résultats de notre étude qu'on avait lancée, même avant que ce soit une grande cause nationale, pour dire il faut donner des moyens supplémentaires. Je pense pas que ce soit de cet ordre-là. C'est beaucoup plus pour sensibiliser au niveau de mal-être, mais c'est surtout à sa variation, parce que ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, effectivement, on sait que certains vont mal. On ne sait pas. Quels sont ceux qui vont plus ou moins mal? Est-ce que c'en est beaucoup? Est-ce que ça fluctue souvent ou pas? Ça va pouvoir donner des informations là-dessus. Et ça va surtout pouvoir donner des informations sur les facteurs qui sont favorisants. Et pourquoi ça c'est important? Parce qu'à partir du moment où on connaît les facteurs qui font que certains sont plus forts ou plus faibles, ou que ils endossent mieux certains stress, quoi, ça va nous permettre en fait de développer des interventions de prévention qui sont spécifiques. Nous, par exemple, on a fait cette étude parce qu'on avait déjà développé une application pour que les adultes puissent faire le point, puissent aller chercher des ressources pour aller mieux ou pour se renforcer, qui s'appelait Stop Blues, qui a été pas mal utilisée pendant le temps du Covid. Et ensuite, on a voulu développer la même chose pour les jeunes. Et en voulant développer ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'on ne comprenait pas, y compris les sujets de préoccupation. Et c'est en connaissant mieux les sujets de préoccupation et certains apparaissent sans grande surprise, hein, mais certains, comme par exemple justement le contexte du monde, le changement climatique, on n'est pas étonné que c'est des préoccupations qui sont en train de monter chez les jeunes, ça fait partie de leur avenir, n'est-ce pas? Mais aussi des préoccupations qui sont très 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 fortes en fait sur leur orientation scolaire, sur le stress à la réussite. Et pour nous, c'est une vraie mission d'essayer de leur donner des solutions pour apprendre à gérer, mais aussi peut-être de revenir vers les ministères qui sont en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour dire, vous voyez, apparemment, certains changements amènent plus de stress. Comment faites-vous face à ça? Voilà.
Pour conclure un petit peu, j'ai lu que vous faisiez mention dans le... Je ne sais plus si c'était dans la foire aux questions, mais en tout cas sur le site de l'étude, que la santé mentale était effectivement désignée comme grande cause nationale de 2025. Donc je voulais vous demander ce que vous pensiez des efforts du gouvernement à mi-parcours du coup de cette année de la santé mentale pour le gouvernement.
Alors pour le coup, c'est très difficile à estimer à mi-parcours. On peut... Un des premiers efforts, c'est d'avoir augmenté énormément la visibilité sur ce sujet. Et donc d'avoir incité beaucoup de gens à en parler. Et c'est quand même la première retombée, c'est-à-dire c'est la déstigmatisation. Et ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, si on doit parler de moyens demandés par tous pour justement augmenter la prise en charge, augmenter les services disponibles, là on ne parle pas que de santé mentale, là on parle de gens qui ont des pathologies mentales développées. Et aujourd'hui, il est encore tôt pour en parler. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que les effets vont venir. Voilà.
Ok. J'avais juste une dernière question. Je voulais savoir sur quelle impulsion s'était créée cette étude, si c'était un événement particulier qui avait du coup un peu mis en route ce projet, ou si c'était entre guillemets simplement une volonté du coup de effectivement de prendre la température de la santé mentale des jeunes et de son évolution.
Alors, comme je vous le disais, on avait décidé, comme on avait fait déjà une application pour les adultes, on s'était rendu compte de l'ampleur du problème pour les jeunes, et on a eu les financements pour faire, pour monter notre application de prévention qui va sortir à la fin de l'année, qui s'appelle Mental Plus, et au moment où on devait commencer à le développer, est arrivé le Covid. Et après le Covid, on s'est dit, là, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, et si on veut que cette application Mental Plus soit la plus pertinente possible, il faut qu'on fasse une étude. Ça, c'était vraiment le début, la première motivation. La deuxième, ça a été de dire, aujourd'hui, les gens ont une vraie difficulté, les jeunes ont une vraie difficulté, parce qu'on en parlait moins quand même à l'époque, à en parler pour eux-mêmes. Alors, si on les incite, si on leur demande de venir nous aider en participant pour les autres, parce que quand on fait de la recherche, on participe pour tout le monde, ça devrait participer à la déstigmatisation et ça devrait les aider à être prêts regarder pour eux, à faire le point pour eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a toujours besoin qu'il y en ait le plus qui participent pour eux, mais aussi, pour tous, mais aussi pour eux, parce qu'on apprend toujours quelque chose.
Merci beaucoup Karine Chevrel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du coup de l'étude Mentalo, mais également médecin et professeur de santé publique à l'Université de Paris-Cité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous aussi, au revoir. Et pour enchaîner sur cette dernière de la matinale de la saison, on va faire un petit détour par les actus du jour et on reste avec toi, Delila.
Et oui, absolument.
Le flash info de la matinale de 19h.
Une immense gêne, voire même de la honte, ce qui est paradoxal, c'est ce que beaucoup de militantes et militants ressentent à l'approche de la Pride de Paris, donc ce samedi 28 juin, car se joindra au cortège le groupuscule d'extrême droite Eros, un collectif ouvertement anti-LGBT, islamophobe, adepte de la théorie raciste du grand remplacement et proche d'Éric Zemmour. Dans une manifestation qui, depuis ses prémices, est évidemment éminemment politique, une tribune parue dans le journal Le Monde et signée par un grand nombre d'organisations et de personnalités publiques fustige cette participation. D'aucuns diraient pas de fachos dans nos fiertés et pas de fierté pour les fachos. Pas de fumée blanche après ce conclave sur les retraites, considéré comme un échec par les syndicats, après 4 mois de discussion, impossible de faire entendre raison au gouvernement pour faire revenir l'âge de la retraite en dessous des 64 ans. La gauche a dégainé cette semaine la motion de censure que le Rassemblement National n'a pas l'intention de voter, histoire de faire pression sur François Bayrou et de lui faire présenter un budget avec des mesures racistes ou homophobes ou transphobes ou islamophobes ou schtroumpfophobes, rayer la mention inutile. Le guide suprême de la République islamique s'est exprimé jeudi pour se gargariser d'une victoire de l'Iran suite au cessez-le-feu avec Israël. Il a minimisé l'impact des frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes, tandis que Donald Trump affirme haut et fort qu'il aurait été impossible de déplacer tout cet uranium aussi rapidement. L'Iran a quant à lui annoncé de prochaines frappes sur des bases américaines au Moyen-Orient en cas d'attaque. Enfin, un mot de culture, le chiffre d'affaires des éditeurs de livres français a chuté en 2024 pour atteindre son pire niveau en 4 ans. Le président des syndicats d'éditeurs cite plusieurs facteurs défavorables selon lui. La réduction des montants passe culture alloués aux jeunes lecteurs, le développement rapide du livre d'occasion et l'érosion du goût pour la lecture. Un argument qui est peut-être à tempérer avec des phénomènes tels que le BookTok qui montre que le livre n'est pas mort même chez les jeunes.
Merci beaucoup Delila pour ce petit brief d'actualité. Et avant de poursuivre la suite de cette matinale, on s'est fait une petite pause musicale à nouveau et on s'écoute Don't Forget de Corey Henry. On est de retour pour la suite de cette matinale et on vient de s'écouter Don't Forget de Corey Henry.
La matinale de 19h.
Et on est de retour pour la matinale et on va s'écouter la chronique d'Anaïs. C'est à toi Anaïs.
Moins acide et plus rafraîchissante, cette citronnade maison détrône toutes les autres recettes. En effet, à l'arrivée des grosses chaleurs, cette délicieuse citronnade algérienne et désaltérante fait son apparition. À présent, voici la recette de cette boisson magique qui va vous rafraîchir et vous permettre de vous désaltérer. Si on vous pose la question, quelle est votre boisson préférée l'été? Eh bien évidemment, vous serez tenté de répondre, la citronnade. Mais détrompez-vous, il y a encore plus rafraîchissant, la variante algérienne qui, en plus d'être délicieuse, permet de rester hydraté bien plus longtemps. Le secret de ce remède est un ingrédient auquel vous n'aurez jamais pensé. Lou Elsener, créatrice de contenu sur Instagram, affirme que c'est la meilleure boisson au monde, argument que partagent ses abonnés qui ont eux-mêmes goûté au sherbet, proche de la citronnade, à quelques ingrédients près. Pour sa préparation, la créatrice commence par retirer la peau de 4 citrons, puis mixe leur pulpe avec 1,5 litre d'eau, filtre au tamis, et transfère la préparation dans le bol de son blender. Elle mixe une seconde fois avec peu de sucre, 4 feuilles de menthe, 2 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger pour une touche florale et 1 verre de lait, qui est donc l'ingrédient mystère. Cela peut paraître étrange, mais les Algériens sont loin d'être les seuls à glisser du lait dans leur citronnade, car c'est une pratique également utilisée au Brésil, car cet ingrédient a deux intérêts. Adoucir l'acidité et l'amertume du citron, mais également de rendre la boisson plus désaltérante selon plusieurs études qui confirment que le lait hydrate plus que l'eau, entre autres par sa présence d'électrolytes. De plus, il n'apporte pas de goût particulier à la citronnade, mais épaissit la texture. Mais bien sûr, vous pouvez toujours opter pour un lait végétal si vous le souhaitez. Ce qui est bon à savoir pour la conservation, cette boisson peut se conserver 24 heures à condition de la placer au frigo.
Merci beaucoup Anaïs pour cette petite chronique culinaire. Et on va enchaîner maintenant avec le premier zoom de la soirée, puisqu'il y en aura deux ce soir. Et voilà, premier zoom de la soirée.
Le zoom dans la matinale de 19h.
Et pour ce premier zoom de la soirée, nous sommes donc avec Jean-Félix Ram qui vient nous parler du Summer Cruise Festival et qui sera interviewé par Marius.
Et oui, bonsoir tout le monde pour cette dernière matinale qui accueille ce soir, comme tu viens de le dire, pour le premier zoom de la soirée, Jean-Félix Ram, directeur de la barge du Cruise de Paris. Et on va parler ensemble de la deuxième édition du Summer Cruise Festival. Bonsoir Jean-Félix.
Bonsoir Marius.
Alors depuis le 3 juin dernier, et ce jusqu'au 12 juillet, la deuxième édition du Summer Cruise Festival borde les quais de Paris. Comment et pourquoi est né cet événement ?
Alors le but de ce festival, c'est de faire de la barge un véritable espace culturel et festif, pas seulement un lieu de restauration. Et le but donc, c'est de créer un lien social entre les étudiants, de proposer des moments conviviaux, gratuits, en favorisant les rencontres et le partage.
D'accord, super. Et au programme, on observe du sport, baby-foot XXL, ping-pong, pétanque, molki, j'en passe. Mais on peut aussi profiter de DJ set live et de concerts. Quelles sont les prochaines dates à retenir ?
Alors donc il y a déjà 3 dates qui sont passées vu que ça a commencé le 3 juin. La prochaine date c'est demain. Donc demain on a After Charrette qui revient pour la seconde fois. Et celle d'après ce sera la soirée de clôture, donc le 12 juillet avec B-Side qui fera 2 DJ sets.
D'accord, super. Et pas de concert prévu ?
Pardon ?
Il n'y a pas de concert prévu, c'est que du DJ set ?
Bah oui, en fait on avait eu 2 concerts déjà avec B-Side. D'accord. Pour le 21 juin et un autre avec Parismus le 5 juin. Et là maintenant il ne reste plus que 2 DJ sets.
D'accord, super. Comment est financé le festival ?
Alors le festival est entièrement financé par la CVEC. À titre d'exemple, avant 2018, des projets comme celui-ci n'étaient pas envisageables, faute de budget dédié. Aujourd'hui, grâce à la CVEC, ils deviennent possibles. Le festival est un exemple concret et visible d'un projet utile, festif, inclusif, financé par les étudiants et pour les étudiants.
Eh ben, très bonne initiative en tout cas.
Merci.
On vient de parler de programmes sportifs, de DJ set, de concerts. Est-ce qu'il y a d'autres animations prévues en ce début d'été ?
Alors oui, tous les jeudis on fait des blind tests et on va peut-être voir pour faire des karaokés. Et surtout à la rentrée on va commencer les diffusions de matchs de foot à voir avec la Ligue des Champions ou d'autres matchs comme a fait le Map Café qui est aussi au Crous au printemps.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Map Café ?
Oui, alors le Map Café, ça a été lancé. Donc c'est un lieu, c'est une cafétéria qui existe depuis longtemps, mais qui à ce printemps va commencer à diffuser des événements sportifs avec toutes les diffusions de la Ligue des Champions, avec forcément les matchs de Paris qui ont beaucoup aidé avec cette année, avec ce qu'a fait le PSG, et qui sûrement à la rentrée va aussi recommencer avec les diffusions de foot qu'on fera aussi à la barge.
Et donc, si j'ai bien compris, ce soir, c'est blind test, c'est ça ?
Ce soir, c'est blind test, oui, tout à fait.
Eh bien, Si vous savez pas quoi faire ce soir, je pense direction la Barge du Crous. La Barge du Crous, c'est le lieu du festival. Pour le caractériser en quelques mots, c'est rooftop, vue sur la Seine, terrasse aménagée. Ce choix de lieu était-il une évidence pour vous?
Alors bien sûr, parce que le Crous a la chance d'avoir une péniche, donc forcément, si on fait un festival, autant le faire dans le plus beau lieu. Enfin, en tout cas pour moi, forcément, vu que c'est le mien. Donc oui. Pour moi, c'est logique, si on fait un festival de musique sur un rooftop, sur la Seine, avec le soleil, le printemps,
ça donne envie.
Ouais, exactement.
Oui. Et en ce qui concerne les snacks, planches à partager, tapas, boissons, le menu, la carte, et j'en passe, vous précisez sur ce site, appliquer un tarif Crous. Comment en bénéficier?
Alors, c'est très simple. Donc, vu que la barge est ouverte à tout le monde, on a des tarifs différenciés. Ça veut dire qu'on a des tarifs étudiants sur absolument tous nos produits. Et donc, pour avoir les tarifs étudiants, c'est facile. Soit vous payez en Easly, ou alors vous présentez votre carte d'étudiant, tout simplement, si vraiment vous l'oubliez, votre certificat de scolarité. Mais normalement, on sait que nos étudiants l'ont toujours sur eux.
Oui, au pire, sur les téléphones aussi, c'est possible.
Oui, bien sûr, oui, pas de souci.
Et donc, est-ce que vous avez des retours positifs vis-à-vis de l'événement?
J'ai que des retours positifs, au contraire, bien sûr. Nos étudiants sont super contents parce que on leur offre un cadre qui est vraiment plaisant, avec des animations qui sont gratuites. On vend aussi de l'alcool à des prix qui sont quand même raisonnables. Donc on vend aussi beaucoup de cocktails sans alcool. Je ne force pas du tout la consommation d'alcool, au contraire. Mais il y en a pour tous les goûts. Et on n'a que des retours positifs.
Et vous avez des habitués qui reviennent?
Ah, on a beaucoup d'habitués, au contraire. Il y a même encore pas mal d'étudiants qui ne connaissent pas. Et dès qu'ils connaissent, ils sont vraiment surpris. Et on arrive à fidéliser très vite notre clientèle.
Après, c'est un peu le but de l'interview. Et c'est
exactement
d'attirer de nouveaux étudiants.
Tout à fait.
Et l'événement jusque-là, c'est un succès pour vous?
Oui, bien sûr. Alors, le premier événement qui avait déjà été un franc succès, c'est pour ça qu'on a recommencé cette année. Et on espère recommencer encore tout dans le futur, en tout cas. Tant que ce sera plébiscité par les étudiants, on le continuera.
Et vous avez des axes d'amélioration pour le futur, d'autres projets?
Alors, des axes d'amélioration, il y en a toujours, évidemment. On réfléchit peut-être à faire encore plus de soirées, mais là, cette année, vu que la barge est sortie de l'eau pour révision de la coque, ça a été un peu particulier, on l'a prévu un petit peu au dernier moment, mais oui, des axes d'amélioration, il y en a beaucoup, et je pense que l'année prochaine, on réservera encore beaucoup de belles surprises.
D'accord, super. Et pour parler du Crous plus généralement, est-ce que le Crous, il a d'autres projets, d'autres initiatives étudiantes de prévues?
Oui, bien sûr. Alors, on a un centre culturel. On a aussi une salle d'exposition qui se trouve rue des Beaux-Arts. D'ailleurs, si vous voulez suivre toute la programmation du Crous et toutes les informations du Crous, n'hésitez pas à aller liker la page sur Insta. Il y a vraiment toutes les infos, que ce soit pour la barge ou alors pour les autres événements culturels, mais il y a aussi tout ce qui concerne les bourses, le logement et la restauration. Donc n'hésitez pas à aller suivre l'Insta du Crous.
Et donc votre événement, c'est un petit peu, c'est très inclusif parce qu'il y a à la fois du sport, de la musique, de la culture.
Bien sûr, en fait, le but, c'est de faire un vrai lieu de vie. Ça veut dire qu'on peut venir sur la barge pour déjeuner. Après, on monte, on prend le café. On peut même réviser un petit peu parce qu'il y a des prises pour les ordinateurs. Il y a même des batteries portables à disposition. Et après, on peut participer à un blind test le soir, ou alors s'il y a un DJ set. Enfin, le but, c'est vraiment d'être un vrai lieu de vie. C'est aussi pour ça que la barge est ouverte à tout le monde et pas seulement aux étudiants, parce que on sait que les étudiants ont aussi des amis qui ne sont pas étudiants. Et le but, c'est pas de les priver. Au contraire, c'est de rassembler tout le monde et d'en faire un vrai lieu de vie.
Donc lieu de vie et lieu de rencontre aussi.
Tout à fait.
Et bien super, et donc vous venez de dire que c'était ouvert à tous, et en plus de ça, l'événement est gratuit. Ce choix était-il important pour vous?
Bien sûr, parce que en tant que Crous, pour moi, on est là pour les étudiants, donc c'était important que l'entrée soit gratuite. Après, libre aux étudiants de prendre des consommations ou pas, mais dans tous les cas, ils peuvent venir gratuitement pour assister au concert, ou alors tout simplement pour jouer au baby-foot, pour jouer à la pétanque. Tout ça, c'est librement, gratuitement. On nous demande juste donnez-nous une balle ou donnez-nous des raquettes, et on donne tout ça avec grand plaisir.
D'accord. Et pour ce qui est des concerts, c'est quel style de musique?
Alors, on a eu, on va dire, c'était de la variété, les concerts, et là, on axe quand même beaucoup sur les DJ sets, parce que les étudiants nous le demandent quand même pas mal, des soirées avec DJ. Tout ce qui était variété, c'était plutôt du 18h-20h, et après, dès qu'on passe de 20h à 23h, c'était beaucoup de DJ sets, parce que c'est quand même ce que les étudiants nous demandent.
D'accord, super. Et donc, pour terminer l'interview, avez-vous un dernier mot à dire à tous ces étudiants qui hésitent encore à se rendre à la barge du Crous en ce début d'été?
Eh ben, venez, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Au contraire, je suis sûr que vous reviendrez.
On est d'accord. Ben merci beaucoup Jean-Félix Ram. Vous êtes le directeur de la Barge du Crous de Paris. Nous venons de parler de la deuxième édition du Summer Cruise Festival. Pour rappel, ce soir c'est Blind Test, tandis que demain et le 12 juillet, il y aura des concerts et DJ sets en live, sans oublier un tas d'animations. L'événement est gratuit et ouvert à tous.
Super, et ben on vous donne rendez-vous du coup ce soir pour le Blind Test et au Summer Cruise Festival dans les prochaines semaines. Et pour continuer cette matinale, on fait une troisième pause musicale. On va s'écouter Amnesia de Oliver Heldens. On est de retour dans la matinale, on vient de s'écouter Amnesia de Oliver Heldens.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et donc on est lancé pour le deuxième Zoom de la soirée. Nous sommes ce soir avec Justine Goyot. Tu es présidente de l'association Les Passeurs de Curiosité et tu seras interrogée par Éléonore.
Bonsoir. Bonsoir PA, bonsoir Justine, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez fondé l'association Les Passeurs de Créativité en 2018 et vous êtes lauréate de la distinction jeune et éco-engagée. C'est une association qui cultive la curiosité des enfants sur l'environnement et la biodiversité, pour ceux qui nous écoutent, et qui propose par des ateliers pédagogiques ce que vous appelez des Wonder Labs. Qu'est-ce que c'est exactement, en quoi ça consiste et à qui ça s'adresse surtout ?
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Donc, je suis Justine Goyon de l'association Les Passeurs de Curiosité. Et effectivement, nous, on s'est donné comme mission de cultiver l'émerveillement des enfants au sujet du vivant à travers le jeu et l'art. Et on s'est dit que pour transformer fondamentalement le rapport des enfants au vivant, c'est-à-dire d'un rapport de domination à un rapport d'émerveillement, on avait envie de leur montrer tout ce qu'il y a de beau, de stimulant, d'engageant et d'inspirant dans la nature. Et pour ça, on a créé un outil pédagogique qu'on appelle effectivement les Wonder Labs, qui sont des mini-muséums un peu nouvelle génération, inspirée de la tradition des cabinets de curiosité avec des vrais spécimens à l'intérieur et qui fonctionne comme un escape game. C'est-à-dire qu'il y a des codes, des cadenas, des énigmes qui permettent aux jeunes d'être vraiment acteurs de leur découverte. Et chaque Wonder Lab représente un écosystème. Ce qui fait qu'ils vont comprendre les interactions entre les espèces et la diversité des formes, des couleurs, des animaux, des plantes, des champignons qui vivent ensemble dans un même milieu. À qui ça s'adresse, du coup ? Principalement à des jeunes de 3-12 ans, en quartier prioritaire ou en zone rurale. L'idée, c'était de se dire qu'en ville, les gamins, ils n'ont pas forcément de la nature autour d'eux. En quartier prioritaire, ils n'ont pas forcément un contexte familial qui fait qu'ils vont souvent à la mer ou souvent à la forêt. Donc on avait vraiment envie d'amener la nature dans les quartiers et de leur donner envie ensuite d'aller observer le vivant à la loupe, d'aller scruter les petites bêtes, compter les pattes et regarder un peu mieux tout ce qu'il y a autour d'eux de vivant.
Et du coup, est-ce que vous avez des retours à nous partager sur le suivi des enfants ou les retours des parents ? Vu que c'est des ateliers qui s'étendent sur toute l'année, donc un suivi de plusieurs mois. Il me semble que vous avez un local dans le 19e, justement, qui rassemble et fait communauté pour tous ces enfants en quartier populaire qui n'ont pas ces sources d'informations et ces lieux de créativité. Est-ce que vous avez un exemple, un retour à nous partager ?
Oui, donc du coup, nos Wonder Lab, on les déploie, juste pour resituer, on les déploie dans divers contextes, dans le contexte scolaire, sur des formats ponctuels à l'école d'une journée ou en format cycle. Donc ça, c'est la première catégorie, vraiment milieu scolaire, accompagnement à la scolarité. Le deuxième format, c'est plus le format lien social au cœur des quartiers avec les bailleurs sociaux, les centres sociaux au pied des immeubles. Un format plus culturel en partenariat avec les institutions culturelles, les villes où là on est plus festival, tiers-lieu pour du grand public. Et un pôle événementiel qui nous permet d'avoir un modèle économique qui tienne la route. Et du coup là, ce dont vous parlez, c'est des projets à l'année qui se passent en pied d'immeuble avec un bailleur social qui est Paris Habitat et qui nous met à disposition une salle où on peut aller deux fois par semaine pour accueillir des jeunes pour mener des ateliers autour de la biodiversité. Et donc c'est des jeunes qu'on a toutes les semaines et chez qui on peut vraiment voir l'évolution du rapport au vivant au fil de nos ateliers artistiques et ludiques. Ce qu'on a pu noter, et on a fait la fête de restitution lundi, donc c'est encore tout frais, chez les jeunes, c'est un grand plaisir à découvrir des animaux et des bestioles qu'ils ne connaissent pas, notamment des espèces un peu insolites, type Pokémon, qui ont été inspirées pour les Pokémon, genre l'axolote, le blob, tous les trucs un peu bizarres, gluants, moches, et entre guillemets évidemment. parce que nous, du coup, on valorise aussi tout ça, il n'y a pas besoin d'être beau pour être préservé. Donc il y a ce premier paramètre-là de tout ce qui est étrange, on leur permet d'avoir accès à des loupes, des microscopes, donc c'est aussi de la découverte du monde invisible, et pouf, dans leur tête, il y a une.
C'est l'expérimentation un peu du coup, une scientifique, l'observation un peu scientifique avec les outils que tu disais. Du coup, c'est chouette.
Exactement. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est juste se retrouver hors cadre scolaire, ensemble, entre jeunes, de pas forcément le même âge, et de kiffer ensemble et de passer un bon moment d'apprentissage, mais hors cadre scolaire. Donc ça les fait se retrouver entre eux et passer un bon moment entre eux. Une façon d'apprendre différente aussi, parce que comme on utilise l'art et le jeu, mais pas avec des outils traditionnels de l'école, C'est souvent des enfants qui sont en décrochage scolaire ou qui ont des troubles de l'apprentissage et utiliser leurs mains, utiliser des outils de dessin ou une autre forme d'apprentissage, ça les valorise, ils sont en contexte de réussite et ça les change de d'habitude. Et donc ça, c'est un des retours qu'on a des parents de « Waouh, je ne l'ai jamais vu aussi enthousiaste par rapport à un contexte d'apprentissage ». Et souvent, c'est des parents qui disent « Moi, je ne vais jamais dans la forêt et mon enfant m'apprend des choses en revenant de vos ateliers. » Et continue les apprentissages qu'ils ont faits dans les ateliers à la maison. Donc, ils rapportent ça, cette culture-là, aussi chez eux. Donc,
c'est une transmission qui se poursuit par les parents, du coup.
Ouais. Du coup, c'est une réussite unanime de bouche à oreille, mais au niveau de la construction et des critères qui vont... servir à établir les box. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un consensus entre les professionnels de médiation culturelle et les scientifiques? Vous êtes en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Comment ça s'organise concrètement pour choisir quel thème et comment on propose ça aux enfants?
Ça s'est fait en plusieurs phases. La première phase, ça a été au moment de la création de l'asso, où là, on a vraiment créé un prototype avec de la récup à la réserve des arts à Pantin, où on s'est dit, ok, bon, dans le milieu scolaire, on parle souvent de la prédation, donc qui mange qui, le lion mange la gazelle, mais on parle jamais de ce qui est aussi très inspirant dans le vivant, de qui est qui. En fait, il y a plein d'exemples qu'on appelle le mutualisme, l'exemple tout simple de la pollinisation, d'une plante pour se reproduire, elle a besoin d'un pollinisateur type abeille, et en échange, bah, l'abeille va se nourrir de ce qu'elle trouve dans la fleur. On a eu envie de mettre un focus là-dessus et donc on a créé nos premiers outils pédagogiques, nos premiers Wonder Labs sur ce thème-là. Ensuite, on est allé vers le Muséum d'Histoire Naturelle pour valider nos propos scientifiques et faire un peu
la vérification,
le commissariat. Ouais. Et là, avec eux, en fait, on a eu du coup... grâce à eux, accès à des scientifiques spécialisés de certains écosystèmes, et c'est comme ça qu'on a co-choisi les écosystèmes qu'on avait envie de représenter, à savoir des écosystèmes de France, mais pas forcément métropolitaines. Donc il y a l'escape box forêt amazonienne de Guyane et l'escape box récif corallien de l'île de la Réunion pour représenter les DOM. Et ensuite, après ça, c'est carrément nos partenaires qui nous ont fait des demandes de boîtes. Là, la prochaine qui devrait voir le jour, on a développé l'escape box biodiversité en ville pour vraiment valoriser tout ce qu'il y a autour de nous. Et peut-être bientôt, on verra le jour une escape box jardin potager pour traiter des questions d'alimentation et de pollinisation. Et une autre idée qui est venue aussi de nos partenaires, c'est la fabrication d'un mini-muséum à faire soi-même par les classes. Donc là, c'est un kit en carton que les jeunes peuvent vraiment imaginer, concevoir, fabriquer, décorer de A à Z. Ils reçoivent le kit et c'est à eux de faire tout le travail qu'on a fait, nous, avec le muséum, et du coup, qui les met vraiment en situation de recherche.
Donc avec ce qu'ils trouvent autour d'eux, c'est ça ?
Ils trouvent, ils font eux-mêmes les collectes, l'identification des espèces. Mmh. Et nous, on les accompagne avec un livret pédagogique pour faire ça avec un adulte.
Pour ceux qui nous écoutent, il y a une vidéo qui est déjà en ligne sur votre site Les Passeurs de Curiosité, qui illustre un partenaire entre deux écoles, où on voit les enfants et la chronologie de toutes leurs recherches. Peut-être préciser, vous aviez parlé des nouvelles Wonder Lab. Ces box-là, elles peuvent être possibles si vous obtenez un budget participatif cette année. Vous avez été présélectionné. Qu'est-ce qui peut faire la différence concrètement au niveau des votes? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'on peut voter pour les deux? Il me semble qu'il y a un projet qu'on n'a pas encore évoqué qui surtout parle de la mobilité.
Oui, donc on a proposé deux projets au budget participatif d'Île-de-France qui se termine le 30 juin, donc vous avez encore 4 jours pour voter pour nous et nous soutenir. le premier projet, donc, c'est pour la conception-fabrication d'une escape box autour du jardin potager, comme je l'ai présenté juste avant. Donc pour présenter les insectes auxiliaires au jardin, toutes les espèces qu'on peut cultiver, y compris dans des potagers urbains. Traiter des questions de la qualité du sol et toutes les interactions de pollinisation qui peuvent avoir lieu dans un potager et quelle est la place de nous, humains, dans tout ça. Comment on peut aider la nature à produire des aliments qui soient sains et aider la nature à faire son travail. Donc ça, c'est le premier projet qu'on a déposé. Et le deuxième projet, c'est pour nous aider à acquérir un véhicule. Parce que là, depuis le début de l'asso, c'est une administratrice éco-responsable. Depuis le début de l'asso, c'est une administratrice qui nous prête gentiment son véhicule. Mais bon, y a des questions de logistique qui font que quand le véhicule n'est pas dispo, ça nous met en difficulté pour aller sur les lieux des interventions. Et c'est un vieux diesel. Donc on aimerait pour ça diminuer notre bilan carbone qu'on a réalisé en 2022. Et donc l'acquisition de ce véhicule nous permettrait de réduire drastiquement nos émissions.
Merci Justine d'avoir été avec nous. J'aimerais prendre les quelques secondes qui me restent pour dire à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez voter sans modération pour les deux projets. Un vote n'est pas égal à un projet. Sur le site île-de-france.fr, vous avez jusqu'au 30 juin. Et surtout d'aller voir sur le site Les Passeurs de Curiosité, parce qu'il y a des offres bénévolat, stage, alternance, CDD, CDI. Et vous pouvez peut-être trouver votre bonheur. Merci d'avoir été avec nous, Justine.
Merci beaucoup, Éléonore. Merci beaucoup, Justine. Et pour finir cette dernière de la matinale de la saison en beauté, on enchaîne avec une chronique de Arthur. Salut Arthur.
Salut, bonjour à tout le monde. Nous sommes le 26 juin 2025. Ça fait 2500 ans que l'on a découvert que la Terre est ronde. Il y a 70 ans, on a réussi pour la première fois à greffer un organe. Il y a 50 ans, on a inventé l'appareil photo numérique. Et pourtant, aujourd'hui, les hommes hétéros, on n'est toujours pas capable de communiquer sur nos sentiments. Par exemple, l'autre jour, je bois un verre avec un pote qui est en couple avec depuis quelques mois avec une fille. Ils sont toujours ensemble. Ils sont partis en week-end à Deauville. Il a publié une photo d'eux sur Instagram. Plus grand encore, il a accepté de ne pas regarder la finale de Ligue des Champions pour passer la soirée avec elle. Ce qui, pour un homme hétéro basique, revient à dire « Marions-nous dans les 10 minutes qui arrivent ». Ce mec vient me voir et me dit « Putain, frère, je suis dans la merde. Je suis amoureux de ma copine. » Ok, gars. Tu l'as mis en fond d'écran de ton téléphone, alors dis-moi plutôt quelque chose que je ne sais pas. Et le gars me répond, non mais tu comprends pas le problème, je l'aime et j'ai trop peur de lui dire. Alors, attention mon grand, parce que t'es en train d'utiliser les mots problème et peur dans la même semaine où un mec a pris un avion en Inde pour aller au Royaume-Uni et que 5 minutes après le décollage, alors qu'il était en train de se demander comment il pouvait se faire une place sur son accoudoir de gauche parce que les accoudoirs ils sont toujours trop petits, son avion a commencé à piquer du nez, les stewards, les hôtesses de l'air n'avaient plus rien à foutre de savoir si tu voulais de l'eau ou du coca sans bulle, il s'est rappelé qu'il était assis sur 3 tonnes de kérosène prêt à lui sauter à la gueule et que partir en vacances en juin pour éviter l'affluence de la haute saison c'est pas une mauvaise idée, mais putain c'est quand même les congés payés les moins rentables de sa vie. Ça, c'est ce que j'appelle avoir un problème et avoir peur. Alors que frère, toi t'es amoureux. C'est une dinguerie d'être amoureux, c'est pas un truc qui t'arrive tous les jours. C'est quelque chose de rare. En plus, quand t'es amoureux, t'as l'impression que tout est possible. C'est au moins comparable au sentiment qui te parcourt quand t'as 6 ans et demi et que t'arrives à faire tes lacets pour la première fois. C'est ce sentiment de liberté extraordinaire où tu te dis « Mais qui va bien pouvoir m'empêcher d'arrêter l'école et de me barrer en Bolivie pour faire des maracas et du coloriage et d'être copain avec un gros chien ?» Bon, dans cet exemple précis, la réponse c'est les réseaux sociaux et le plan alerte enlèvement. Mais quand t'es adulte et que t'es amoureux, plus rien ne peut t'arrêter, c'est fantastique. Du coup je demande à mon pote, mais qu'est-ce qui t'empêche de dire à ta copine que tu l'aimes? Et il me répond, mais j'ai trop peur qu'elle me dise pas je t'aime en retour et que je sois ridicule. Tu vois à quel point les hommes, on est des petits marcassins fragiles de début de printemps, effrayés partout. On est là avec nos petits sabots, notre petit groin, et on se demande si on va nous aimer en retour. Mais gars, quand on dit « je t'aime », on le dit pas avec la condition que ce soit positif en retour. D'ailleurs, on le dit même pas du tout pour l'autre. On le dit pour soi-même, parce que c'est énorme et que ça va nous échapper. Et que c'est tellement gros qu'on peut pas le garder pour soi. Et que quitte à le dire, autant le dire à la personne concernée. Dire « je t'aime », c'est pour soi-même. C'est comme quand t'es en vélo dans Paris et que tu manques de te faire percuter par un mec en voiture. Ce mec-là, quand tu lui insultes son grand-père, c'est pas tellement pour lui que tu le fais. C'est pour toi. C'est l'expression d'un sentiment qui te dépasse. C'est exactement la même chose avec l'amour. Et puis, nous les gars, faut qu'on se réveille. Faut qu'on dise ce qu'on a sur le cœur calmement sans avoir peur d'être ridicule. Faut qu'on arrête de penser que avoir un ego qui silencie nos émotions, c'est quelque chose de viril. Faut arrêter de se mettre en tête qu'un homme ne fait pas ceci ou pas cela. Et surtout, faut arrêter de penser que le « je t'aime » doit systématiquement venir des autres, et en particulier d'une autre. Et d'ailleurs, même nos icônes masculines sous kératine et shaker de protéines le disent. Et j'en prends pour exemple le rappeur Booba, qui, en l'an 2011, dans l'album Lunatique, sur le morceau de Jimmy Deux Fois, qui est un morceau où il répète toutes ses fins de phrases deux fois, c'est un visionnaire, a dit, deux points, ouvrez les guillemets, « Malécale morte et sur tes pas, chacun est suivi, suivi. Donc si tu aimes quelqu'un, dis-lui, dis-lui. » Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Arthur pour avoir fini cette émission en beauté. Et malheureusement, c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci à nos auditeuristes d'avoir été avec nous pour cette matinale et de nous avoir suivis pendant toute cette saison, puisque c'était la dernière de la saison aujourd'hui. Merci à nos invités du soir, Karine Chevreul, Jean-Félix Ram et Justine Goyon. Merci à nos bénévoles, avec nous ce soir aussi Delila à interview et au Flash Info, Marius et Éléonore pour les deux zooms de la soirée, Arthur et Anaïs aux chroniques et Gauthier à la réal. Et restez avec nous sur Radio Campus Paris, tout de suite retrouver l'émission Fréquence Recherche. Et pour la matinale, on continue de vous accompagner pour quelques émissions cet été. Vous pouvez nous retrouver pour les estivales de la matinale les 1er, 8 et 15 juillet prochains. Bonne soirée à tout le monde.